Bonjour à tous. J'aimerais démarrer avec vous par la lecture de deux textes. Un dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 2, on lira les versets 8 à 10. Et puis on suivra le texte ensuite. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dehors, en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Je vous lis pas la suite. Ce texte est un peu étrange, il a dit qu'il va manger un rouleau, manger la parole de Dieu, et que cette parole va être douce comme du miel. Et pourtant, c'est des lamentations, des plaintes, des gémissements. Et puis, quand on lit la suite de ce chapitre 3, on se dit, comment on dit, qu'est-ce qu'Israël ramasse dans la figure? J'aimerais lire encore avec vous les versets 16 et 17. Et au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai de son sang. Je ne sais pas vous, dans la gamme des saveurs, qu'est-ce que le miel représente pour vous? Moi, j'en prends tous les matins. Ça me rappelle que la parole de Dieu est comme du miel, ce texte l'indique. Et beaucoup de fois dans ma vie, allez, j'allais dire que 70% des paroles du Seigneur que j'ai reçues étaient comme du miel, quelque chose d'agréable. Et puis en même temps, quand je vois le contenu de ce que le prophète doit annoncer, je me dis, ah, comment est-ce qu'il fait pour trouver ça comme du miel? On lit un autre texte un petit peu semblable tout à la fin de l'Écriture, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Un autre prophète, une autre expérience. Les versets 8 à 10. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, Prends-le. Avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. L'expérience là dans le la saveur et le goût est un petit peu différente. Au début, c'est super, c'est comme du miel. Et puis après, quand ça descend, le goût de l'amertume. Je ne suis pas trop connu pour aimer l'amertume. Je ne sais pas vous. Je préfère le miel, j'aime beaucoup les pâtisseries d'Afrique du Nord. J'ai beaucoup aimé quand j'étais dans le nord de la France, sur l'île, il y avait une pâtisserie. Quand je pouvais, j'allais chercher des gâteaux avec du miel, des pistaches. Quelle saveur a l'écriture pour chacun d'entre nous? 50-50, 50% du miel, 50% de l'amertume. Quel est le... Bon, ce texte concerne des prophètes. Il concerne aussi chacun d'entre nous. Je crois que c'est Moïse qui disait, voilà, puisse tout le peuple être prophète. Le peuple de la Nouvelle Alliance est un peuple prophétique. Et j'apprécie beaucoup être dans une église où le don, la parole prophétique, le ministère prophétique en fait partie. C'était ma prière l'année où je suis converti. Sœur, moi je veux une église où il se passe des choses, où ta parole est vivante, comme dans les Actes des apôtres. Dans ma vie qui n'est pas finie, il m'arrivait de recevoir, allez, je vais dire quoi, 6-8 visions. Il y en avait les deux tiers qui étaient comme du miel. Il y en a quelques-unes qui étaient avec de l'amertume. Dieu ne cherche pas à nous être toujours agréables. Et parfois, il doit nous secouer, nous éduquer, nous avertir. Des paroles qui peuvent être, au premier abord, des paroles comme du miel, peuvent produire de l'amertume, c'est-à-dire qu'on peut avoir la peine avec... La saveur est, comme on dit, un petit peu dure à faire passer si on mange un fruit, quelque chose qui a une saveur amère, acide huilé. Quand j'étais gamin en centre aéré, on marchait de l'Armor à Kerguelen en empruntant tous les petits sentiers. Puis au retour, vers 6 heures, les gamins, on avait toujours faim. Et il y avait des prunelles. Toute petite prunelle, puis on en mangeait tout plein. Mais alors, c'est comme si toute la salive était attirée hors de la bouche, avait un goût. Parfois, la parole de Dieu peut être pour nous avec une saveur un peu difficile. L'année avant d'aller au collège public, c'était quoi, 75, 76, 77. Sur ces 3 ans, j'ai reçu plusieurs fois la finale des lettres aux églises dans l'Apocalypse. À celui qui vaincra. Ça me terrorisait, parce que je me disais, mais Seigneur, on fait comment pour être vainqueur? Elle est où la clé? Il est où le truc? C'est quoi être vainqueur? Et si je l'ai reçu une fois, deux fois, trois fois par des personnes complètement différentes, le Seigneur m'a dit, il y a une parole qui dit, tu méditeras ma parole jour et nuit ou nuit et jour. Alors voilà un exercice de style. C'est pas un grand texte, c'est pas un grand discours. À celui qui vaincra, si le Seigneur vous adressait cette parole ce matin, t'adressait cette parole ce matin, ce serait du miel, ce serait amer, ce serait quoi la saveur? Chez moi, ça a été beaucoup ambivalent. Au départ, je me suis dit, ouais, super. Puis après, Seigneur, je fais comment pour un jour pouvoir dire cette parole de l'apôtre Paul? J'ai été jusqu'au... jusqu'au bout de la course. La couronne de vie est mise de côté pour moi. J'atteins le but. Je me disais, j'ai encore des dizaines d'années, vivre avec toi. C'est quoi, comment je fais pour être vainqueur? Je le laisse à votre méditation. Miel ou amertume. Là aussi, c'est l'expérience de chacun. Ça a été la mienne. Aujourd'hui, ce serait plutôt du miel. Mais il y en a eu d'autres. Une vingtaine d'années, voilà, une vision reçue pour la dénomination, l'église dont on fait partie. Et puis, 20 ans après, cette parole est pour moi toujours d'actualité. Elle est toujours un peu amère. Comment est-ce que je vais vivre avec cette saveur qui parfois sera du miel, parfois sera amère. Le miel, le sucré, c'est dans la bouche. C'est le goût, c'est tellement agréable. Une bonne tartine de pain avec du miel, ou du pain d'épices, encore mieux, hein, avec du miel. C'est quoi la saveur de l'écriture? L'amertume, c'est seulement après qu'on ait eu le goût du miel. Puis tout d'un coup, ça descend, on digère, et puis il y a une réaction chimique, quelque chose qui se transforme. C'est quoi ma relation à l'écriture? Ah, si c'est des promesses de Dieu, voilà. Merci Seigneur pour ta promesse. Je suis fidèle, je la verrai s'accomplir. Si c'est une parole d'avertissement, ouais, super. Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes là? Si vous êtes fils et filles, Dieu nous avertit, Dieu nous corrige. On aime les paroles de promesses, de récompenses, tout va bien dans nos vies. Quel est notre rapport à une parole d'avertissement, de correction? J'aimerais lire d'autres textes avec vous, l'expérience d'une femme extraordinaire. On n'en parle pas très souvent dans nos milieux. Il s'agit de la mère de Jésus, Marie. On en parle un peu plus dans d'autres églises. J'aimerais lire avec vous Luc chapitre 2 et le verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. La mère de Jésus s'est nourrie de tout ce qu'elle a vécu. Elle s'est nourrie des paroles de l'ange. Voici, tu deviendras enceinte. Cet enfant, c'était une jeune femme, hein, peut-être adolescente, je ne sais pas quel âge elle avait. Sûrement pas très très âgée. Le poids de cette parole, le poids de ce qui allait lui arriver, de ce qu'elle allait vivre, sachant que sa vie était sous l'onction, sous la lumière de l'Esprit-Saint. Marie gardait toutes ces choses, les repassait dans son cœur, toute cette première année avec Jésus, en se disant, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je porte réellement le Christ, le Messie, sauveur du monde, de l'humanité, sauveur d'Israël? Les versets 34 et 35. Siméon rencontre Marie. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » C'est une chose que de recevoir la parole de Dieu, dire « Waouh, c'est extraordinaire, je vais porter le Jésus-Christ, le Christ sauveur de l'humanité. » Et puis Siméon apporte une autre parole un petit peu différente. Parole peut-être aussi amère pour Israël. Cet enfant est destiné à amener la chute, le relèvement de plusieurs en Israël, de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Présence du Christ dans le monde aujourd'hui, 19 septembre 2021, est toujours un signe de contradiction. Je suis en train de lire en ce moment tous les matins un livre qui s'appelle La maison de l'islam. Comment depuis moins d'un siècle, Dieu essaye de toucher toutes ces parties de l'islam qui sont tellement différentes, et il le fait avec différentes gradations, avec toutes sortes de révélations. Dans la maison de l'islam, Christ est un sujet de contradiction. Dans notre société occidentale, on essaye de l'évacuer, de faire comme si... C'était l'histoire ancienne. Bon, dans les musées, il y a plein de choses qui se rapportent à la religion, mais bon, c'est pour les érudits, les gens qui ont de la culture. Au quotidien, ça ne nous concerne pas tellement. Cacher cet enfant, ce Noël que je saurais voir. Christ peut être aussi un sujet, un objet de contradiction dans notre propre vie. Parce que parfois, il y a des paroles qui nous percutent, qui nous atteignent, qui nous sont données et qui ne sont pas là pour toujours que pour être agréables. Versets 51-52, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Quelle que soit la nature de la parole reçue, Marie la gardait dans son cœur. Première semaine de ma conversion, toutes sortes d'aventures avec Dieu. Et le premier dimanche où j'étais dans un culte de maison, une courte parole prophétique, « Garde ce que tu as reçu. » Je suis retourné avec les musiciens avec qui j'étais, et puis 5 mois après, j'ai changé de vie. Mais pendant 5 mois, j'ai dû me battre avec ce que j'avais reçu comme révélation sur le Dieu vivant et vrai. Parfois, il y a des périodes dans nos vies, il y a des périodes longues, il y a des périodes courtes, des périodes de combat. Marie a choisi de garder la parole, les actions, la manière d'être de Dieu qu'elle avait reçue. Même si elle a eu cette parole dure, hein, une épée te transpercera le cœur. Elle était au pied de la croix quand Jésus était crucifié. Jésus lui a adressé cette parole, voilà, femme. Voici ton fils, en montrant l'apôtre Jean. Et Marie a été décalée, a changé. Pour une mère, c'est... Dans la vie, dans la relation aux enfants, et parfois des choses pas faciles. Marie a dû avancer avec ses paroles, avec ce vécu. L'Écriture ne s'attarde pas sur ce qu'elle a vécu au pied de la croix. Mais elle a avancé avec ce qu'elle a reçu, je pense que jusqu'à la fin de sa vie. elle aura gardé, après ce que les hommes en font au niveau religieux, c'est autre chose. Matthieu, chapitre 6, verset 21. Texte court, hein. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Comment est-ce que je valide, comment est-ce que je verrouille la parole de Dieu dans mon cœur, ses promesses, ses avertissements. Il y a des choses sur lesquelles on devra veiller sur pratiquement toute notre vie. Par rapport à mon passé, certaine indépendance d'esprit, choses liées à l'alcool, liées aux choses occultes, liées à des faiblesses de mon caractère, des choses sur lesquelles je dois veiller. Je dois veiller. Des paroles reçues il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Est-ce que c'est du miel? Est-ce que c'est amer? Là où est ton trésor? Est-ce que mon cœur est dans l'écriture, pas le livre, hein, pas seulement l'encre, mais dans une parole vivante de Dieu, dans l'esprit qu'elle représente? Est-ce que je peux la valider, la verrouiller, cliquer dessus, la confesser? À nouveau, la prière dans l'église, on regarde toujours, voilà, on dit, oh, un tel, une telle, ils font de tellement belles prières. Allez, je vais être un petit peu incroyable, le Seigneur s'en, bah non, s'en fout. C'est, ce qui l'intéresse, c'est pas la beauté de français, de... Ce qui l'intéresse, c'est que l'on valide sa parole, même si c'est très court. Mais le faire dans l'Église, c'est une telle force, une telle puissance, une telle sécurité, un tel appui, une telle assurance. Pendant des années, le Seigneur m'a dit, voilà, mais voilà, dans l'Assemblée, confesse une promesse, confesse ce que je suis, confesse ce que je t'ai donné. Garde. Quand il est dit garder, c'est aussi confesser dans l'Assemblée des saints ce que Dieu est, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu valide dans notre vie. On a chanté tout à l'heure, hein, par rapport à... Je vais retrouver la feuille de chant. Hein. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Quand je confesse la parole de Dieu, Dieu se lève dans ma vie. Dieu se lève, son règne est établi. J'ai mis un petit peu de temps à assimiler, à comprendre cela. Mais que ce soit tout seul, que ce soit dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée des saints, pouvoir confesser ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a donné. Que ce soit du miel, que ce soit amer. L'amer peut se retransformer en miel. Dieu est le Dieu des miracles. Et une parole amère peut devenir du miel, une parole de miel peut devenir amère, mais ça peut changer, ça peut évoluer dans ma vie. Hébreux chapitre 4, je pense un texte que beaucoup connaissent, mais c'est bien de le relire de temps en temps. Hébreux 4, les versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante et efficace dans ma vie. Vivante et efficace face à l'ennemi. Vivante et efficace face à l'esprit du monde, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et noël. Dans notre âme, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans ce que l'on doit faire et être, Dieu est capable de nous donner le discernement. La parole de Dieu est un outil de discernement. Je ne mange pas trop de viande, je ne vais pas trop à la boucherie. Je n'ai jamais trop aimé voir les bouchers découper la viande. Mais c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ont leur couteau, leur épée, et puis ils enlèvent le blanc, ils enlèvent les nerfs, ils enlèvent les muscles, ils découpent. Puis la parole de Dieu fait un travail de dissection dans ma vie pour m'aider à discerner, à évaluer, à peser le pour, le contre, le oui, le non. Voilà, Seigneur, dans le dialogue avec Jésus, Seigneur, ta parole, comment est-ce que je dois être, faire avec, comment est-ce que je dois l'interpréter. Tout le temps où je la garde, je travaille avec la parole de Dieu. Tranchante, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et muelle, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Ça rejoint des textes de Paul, on va partager le repas du Seigneur, où il dit, voilà, vous voulez partager le repas du Seigneur, examinez-vous. Évaluez votre vie, jugez les pensées qui sont en vous pour savoir si vous pouvez partager le pain et le vin. Je termine avec un texte dans le prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Les versets 7 à 10. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie était un tout jeune homme. Je vous laisse imaginer l'impact, la puissance quand il a reçu cette parole. On a vu tout à l'heure qu'Ézéchiel avait été installé sentinelle, prophète sentinelle. Jérémie est un autre type de prophète. Il était jusqu'au bout, il a accompagné Israël presque jusque dans l'exil, puis il a mal fini. C'est pas facile hein, de s'opposer. Je vous relis, hein, que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. Je ne sais pas quelle est la parole de Dieu aujourd'hui pour les nations, mais il y a sûrement un petit peu de ça. Donc pour nous dans l'Église, les uns les autres, face aux nations, on est un petit peu dans le même registre. On prend au chapitre 15, les versets 16 à 21. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas guérir? serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. J'ai toujours beaucoup aimé tous les textes de vocation des prophètes. Il y a matière pour chacun d'entre nous à être encouragé, aussi à être averti. Ça n'empêche pas le prophète de crier, de pleurer, de gémir devant Dieu et dire, mais voilà, c'est parfois ce qui m'arrive n'est pas très juste, n'est pas facile à vivre. Et... ta parole n'est pas que du miel. Et puis en même temps, le Seigneur dit, voilà, si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. L'onction, la fonction prophétique, suppose que je mette de la distance avec beaucoup de choses. Notre implantation dans le monde, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde et dans notre témoignage. On est comme une muraille d'airain. Ne pas abandonner, garder ce que l'on a reçu. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Je vous laisse avec cette fin de récit de Jérémie. Recevant, cherchant, acceptant la parole de Dieu. Que ce soit du miel, de l'amertume, gardons-la dans notre cœur, là où est notre cœur, là est ce trésor, que ce trésor dans l'Écriture, eh bien nous puissions le porter, marcher avec, jusqu'à la fin de nos jours. Bonne continuation.